Merci parce que tu...
Nous voici donc de nouveau rassemblés pour continuer à nous entretenir de ce qui touche aux disciples de Jésus-Christ. Nous allons bientôt interrompre cette série, mais aujourd'hui nous allons nous souvenir simplement que Jésus a donc adressé à ses auditeurs des appels, mais des appels qui ont été accompagnés d'exigences qui nous paraissent parfois exorbitantes. Souvenons-nous qu'il a demandé aux disciples ou à ceux qui étaient postulants de le préférer, lui, à tout autre, à tous. Et à tout. Nous nous souvenons que le suivre, il l'a dit lui-même, est une affaire coûteuse. Et il exhorte le candidat à calculer le prix à payer. Prétendre, comme certains l'ont fait, que la religion est pour les faibles, pour les demeurés, c'est mal connaître l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La personne qui chercherait une vie pépère, comme on dit, ou mémère peut-être, le féminin existe aussi, qui aimerait avoir, être bien dans ses pantoufles, dans ses charentaises, ferait bien d'aller chercher ailleurs que vers Jésus-Christ. Il vaut mieux aller vers la religion dans son sens général du terme, cette démarche qui cautérise les consciences, ou aller vers des marchands d'illusions, si on se contente d'illusions. Jésus n'est pas en quête de lavette. Jésus ne cherche pas des aboliques, des gens sans volonté, prêts à marcher comme des moutons de Panurge. Non, Jésus s'adresse à des personnes de tempérament. Jésus veut des battants. S'il est vrai que Jésus offre la paix avec Dieu et la paix avec soi-même, il est tout aussi fondamental de se souvenir que lorsque Jésus vient dans une vie, il y introduit une épée. À quelque niveau que ce soit, cette épée va sonner la division au plan familial ou au plan sociétal. Et il faut être prêt à assumer cette division et les conséquences qui en découlent. Et Jésus parle d'expérience. Souvenez-vous de ce moment rapporté dans le début des évangiles, où il est dit que les gens de sa parenté, selon les traductions, ou bien les membres de sa famille, ou bien les parents, c'est la même chose, venaient vers lui, qui discourait devant la foule, et il venait pour se saisir de lui, dit l'Écriture, ou pour s'emparer de lui. Car il disait, il est hors de sens. Ou, si vous préférez, il a perdu la tête. C'était sa propre famille qui disait cela. Donc, lorsqu'il dit qu'il vient pour semer la division au sein des familles, il sait de quoi il parle. Et c'est sur cette intervention de la famille, prétendant que Jésus avait perdu la tête, que les scribes s'empressèrent d'ajouter, il est possédé par Béelzébul. Et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Les circonstances sont liées. C'est assez impressionnant d'en prendre conscience. Donc, immanquablement, emboîter le pas à Jésus, c'est franchir une frontière. C'est devenir un étranger au milieu des siens, dans sa propre famille, dans son propre pays. C'est devenir quelqu'un d'ailleurs. C'est faire le constat que notre société, ici, chez nous, en France, si tolérante pour toutes les religions et toutes les philosophies qui se manifestent dans son sein, n'est plus tolérante du tout pour ceux qui professent vivre et servir le Dieu vivant et vrai. Il n'y a aucune tolérance pour le disciple de Jésus-Christ qui vit sa foi. Très vite, il sera taxé d'intégriste, de fondamentaliste, de n'importe quelle liste que vous voudrez. Là, malgré une société qui multiplie à profusion les divinités, qu'elle se fabrique et qu'elle intronise, le Dieu de Jésus-Christ et la personne de Jésus-Christ, écoutez et obéis, n'ont pas de place. C'est assez impressionnant quand on y réfléchit. Bon, ce rappel ayant été fait, allons plus loin. Tâchons d'accomplir un pas de plus dans cette démarche qu'est la nôtre. Et voilà que nous constatons que les paroles de Jésus ne cherchent jamais à diminuer la dose qui a été prescrite au départ. Il ne dilue pas la potion, qui n'est pas d'ailleurs une potion magique, disons-le tout de suite. Et on ne peut pas y tomber dedans quand on est petit. Cette fois-ci, je voudrais attirer quelques paroles de l'Écriture, paroles que Jésus a dites, dont Luc 6, toujours. Mais, constater que Jésus les dit de façon à positionner son auditeur, non pas par rapport à sa propre personne, c'est-à-dire par rapport à lui. Lorsque Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, il faut qu'il renonce à ceci, qu'il abandonne cela. Donc, c'est par rapport à ses propres démarches, par rapport à lui-même. Cette fois-ci, il va positionner son auditeur par rapport à l'autre, par rapport au vis-à-vis. Par rapport au prochain, on sait déjà ce que Jésus a dit concernant le prochain et aux réactions de l'ego blessé, de l'orgueil des personnes atteintes et à l'esprit un peu vengeur qui se complaisait bien à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Même était prêt à aller un tout petit peu plus loin, à faire payer deux dents pour une. C'est plutôt la tendance. C'est une sérieuse avancée déjà que de rejeter cet aspect et de dire « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. » C'est un progrès plus grand encore lorsqu'on dit « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. » Parce que le fait de ne pas faire à l'autre ce que nous ne voudrions pas qu'il fasse, c'est quand même un peu à notre bénéfice aussi, et c'est avoir une certaine indifférence vis-à-vis de l'autre. On ne s'en occupe pas, on est tranquille. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus va dire, mais fais! Fais! Il va positiver, comme on dit aujourd'hui, vous savez. Positiver. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Lorsqu'il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, Jésus énonce là quelque chose qui est fondamental, mais qu'il va savoir rendre plus grand encore que ne pouvait le percevoir le juif, dans sa connaissance. N'y a-t-il pas un des lettrés qui aura le culot de lui dire « Et qui est mon prochain ?» Il faut avoir de l'aplomb pour cela. Mais Jésus pourra ajouter concernant cela, « Vous avez appris que, mais moi je vous dis que. » Et Jésus de pousser les limites au-delà de ce à quoi les auditeurs de son temps étaient habitués. Il va enseigner une loi nouvelle, pourtant ancienne. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Mais c'est vieux cela. Oui, c'est vieux. Mais pas dans la dimension que Jésus va décrire. Il va parler de la loi de l'amour. De l'amour qui pardonne. De l'amour qui se donne. L'autre. Se positionner par rapport à l'autre. Mais pas n'importe quel autre. Se positionner par rapport à l'autre lorsque c'est un malfaisant. Vous avez bien compris, je ne suis pas trompé de mots. Lorsque c'est quelqu'un qui se plaît à faire le mal, qui se manifeste en haïssant, en maudissant, en calomniant, en vous haïssant, en vous maudissant, en vous calomniant. Voici la lecture des deux versets dans Luc 6. Je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Le mot maltraiter traduit un verbe qui, dans la langue grecque, signifie vexer, signifie menacer, diffamer, calomnier. Plusieurs versions ont opté pour calomnier. En raison du parallélisme que je mettrai en rapport tout à l'heure, je pense que la traduction est bonne et j'opterai personnellement pour le mot calomnier. L'autre. Celui qui est notre vis-à-vis. Celui qui se présente ici sous le terme d'ennemi. C'est quelqu'un dont l'action directe, motivée par la haine, peut mettre en danger la vie de celui qui est l'objet de cette haine. Car en effet, celui qu'elle anime peut être l'initiateur et l'acteur de menaces et de menées violentes telles que celles entreprises par un certain Saul de Tarse. Il est un vivant exemple de cette haine à l'œuvre. Action directe donc de celui qui se présente comme un ennemi, action secrète lorsque son pouvoir de nuisance, a recours à la malédiction en faisant appel au monde spirituel, car la malédiction fait appel au monde spirituel. Lorsque celui-là fait appel à sa divinité, je n'ose pas dire Dieu, c'est pourquoi je dis sa divinité. Lorsqu'il fait appel au monde occulte pour nuire aux disciples de Jésus-Christ, pour lui porter préjudice. Action directe dans la haine, action secrète dans l'invocation de puissances occultes, action mêlée de directe et de secret ou de parole, pardon, d'action et de parole, décrédibiliser le disciple de Jésus-Christ par le mensonge, la calomnie. Ne disait-on pas, du temps des Romains, que dans les catacombes, les chrétiens offraient des sacrifices à des divinités, sacrifices qui comprenaient des pains, dans lesquels étaient enfermés des enfants, et qui étaient ainsi immolés pour Dieu? On n'a jamais connu cela. C'est pourtant ce dont étaient accusés les chrétiens, et c'est ce qui faisait que la foule les menait joyeusement aux arènes pour les donner en pâture aux lions et autres fauves. Calomnie, menace, mais menace due à des paroles fausses. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai opté pour le mot calomnie, j'y reviendrai dans un instant. Cet être malfaisant considère le disciple de Jésus-Christ comme un ennemi. Celui-là, le disciple de Jésus-Christ, doit le considérer comme son prochain. Considérer comme son prochain et agir vis-à-vis de lui comme il doit agir vis-à-vis de tout prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'allais dire même et surtout lorsqu'il ne t'aime pas. Nous avons l'impression que Jésus exagère un peu, qu'il nous en demande beaucoup. Peut-être même estimons-nous qu'il en demande trop. N'est-ce pas ce qu'il a fait lorsqu'il nous a aimés, vous, moi, être peu aimables ? Pécheurs révoltés, prêts à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Il nous a aimés. Il nous a prouvé que ce qu'il nous demandait était possible. Aimez vos ennemis. Trois mots. Trois petits mots. Pour tout dire. Trois mots pour nous heurter peut-être parce que cela nous semble impossible. Impossible pour l'être naturel, bien sûr, qui lui crie vengeance. Mais possible pour celui qui se sait aimé par quelqu'un comme jamais il n'aura pu être aimé. Possible pour celui qui est en train de payer à la place de l'autre, à votre place et à la mienne, et qui dira dans ces moments dramatiques, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parole reprise, pas tout à fait textuellement, par Étienne alors qu'il ployait sous le coup des pierres qui lui étaient lancées. Seigneur, ne leur impute pas, ne tiens pas compte de ce péché. Dites par le Seigneur Jésus, nous le comprenons bien, il était le Fils de Dieu. Dites par Étienne, nous indispose davantage, car lui, il était homme comme nous. Trois mots, suivis de leur mode d'emploi. Aimez vos ennemis, résume l'ensemble, et est assez bref pour qu'on puisse s'en souvenir. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Voilà le programme. L'antidote à la haine, à la malédiction, à la parole mensongère, c'est la réponse du disciple dans l'amour. Dans une démarche positive, constructrice, qu'il va opposer à la démarche négative et destructrice de ce prochain qui le considère comme un ennemi. Oui, c'est difficile. Mais le Seigneur nous invite à opposer aux œuvres de la haine l'action de l'amour. À celui qui veut vous détruire, faites-lui du bien. De façon concrète, il tente à faire le mal, faites le bien. Un acte positif de votre part pourra neutraliser un acte négatif dans ses conséquences proches ou lointaines. Aimez. Aimez sans vous lasser. Aimez encore. Aimez toujours. Un acte tout d'abord. Faites le bien à celui qui vous hait. En parole. En parole lorsque lui, en parole, vous maudit. Vous, en parole, bénissez-le. Demandez à Dieu le meilleur pour lui-même. Souhaitez ce qu'il y a de bon pour celui qui vous souhaite ce qu'il y a de pire. Pour contrecarrer l'aigreur et la destruction de la malédiction prononcée, souhaitez une action enrichissante pour celui qui cherche encore une fois à vous nuire. Invoquez, désirez le meilleur. C'est la réponse, encore une fois. N'est-ce pas lui témoigner un amour qui ne fait exception de personne? Mon amour, s'il est amour, ne peut pas être sélectif. Il ne peut en aucun cas être sélectif. Et s'il devait l'être, il ne serait vrai que lorsque j'aimerai celui qui ne m'aime pas. Car aimer ceux qui nous aiment, vous connaissez la suite. Donc l'amour est là, il agit pour le bien et il souhaite le bien, le bon. En parole et en action, le voici de nouveau intégré dans ce mode d'emploi que Jésus donne lorsqu'il dit « Priez pour ceux qui vous calomnient ». La prière étant action et parole. Que fait-elle cette prière? Envers celui qui parle faux, envers celui qui répand le mensonge, envers celui qui vous accable de choses qui n'existent pas. Il faut lui opposer notre façon de parler de lui à Dieu. Car il s'agit bien de cela dans la prière. Il s'agit d'intervenir en sa faveur et de parler de lui à Dieu en vue du meilleur encore une fois. Priez pour ceux qui disent des mensonges à votre égard, mais priez avec vérité pour eux. Quelle extraordinaire parole que celle de Jésus. Il y a bien parallélisme ou opposition, si j'ose dire, dans toute la ligne entre l'acte de bienfaisance et l'acte de malfaisance, pour le premier point. Entre le désir de bien-être souhaité pour l'adversaire et le désir de mal faire ou de mal-être que l'autre souhaite pour vous. Et ici, c'est entre la parole déstructurante de celui qui a la haine de sa fausseté et une parole d'intercession pour la restructuration de celui qui est brisé, pour la reconstruction. Telle est la consigne que le Seigneur nous donne. Aimez vos ennemis, faites du bien, bénissez, priez pour ceux qui vous veulent du mal, qui vous maudissent, qui vous calomnient. Priez en faveur de celui qui suit le père du mensonge, meurtrier depuis le début, pour qu'il puisse un jour ou l'autre entendre la voix de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Que votre attitude d'amour, d'action bonne, de parole enrichissante et de prière, d'intercession, puisse toucher le cœur de ceux qui ne vous aiment pas, de ceux qui ne nous aiment pas et nous considèrent comme des adversaires, comme des ennemis. Je ne peux voir en personne un ennemi. Jésus ne voyait personne un ennemi. Il voyait des pécheurs pour lesquels il mourait, pour lesquels il priait, à quelque stade qu'ils aient été dans leur rébellion contre Dieu. Mais ce n'étaient pas ses ennemis. Eux le considéraient comme tel, parce qu'il le gênait. Mais nous, nous devons avoir la même attitude. Normalement, nous n'avons pas d'ennemis. Nous sommes considérés par les autres comme tels. Mais nous, nous devons voir le prochain, ce prochain qu'il nous faut aimer, comme nous-mêmes, et pour lequel il nous faut agir, selon la pensée de Dieu. Pour accéder à cette dimension, de considérer le prochain tel qu'il est, même s'il est un malfaisant, il faut avoir appris à renoncer à soi-même. C'est une des conditions précédemment énoncées. Renoncer à soi-même, accepter de perdre ses droits en reconnaissant les droits de l'autre, même si, humainement parlant, il est dans une situation répréhensible. Mais c'est un prochain, et pour Dieu, il a des droits, et des droits sur nous. C'est-à-dire que nous avons des devoirs envers lui. Nous devons le faire pour l'honneur de Dieu, Et nous devons le faire pour l'amour de celui qui ne nous aime pas. Voici une parole un peu plus récente, un peu moins ancienne que celle de Jésus. Je vais la chercher dans Romains au chapitre 12. Elle a été écrite quelques 28 ans après que les paroles de Jésus aient été prononcées. Elle est due, ou ce texte est dû, à la plume de l'apôtre Paul. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, entre guillemets, sous-entendu de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte ou vainc toi-même le mal par le bien. » Voilà des paroles qui sont celles d'un homme qui a connu ce que nous savons et qui nous dit surtout, surtout, jamais le mal pour le mal. Toujours le bien pour le mal. Le mal pour le mal est banni dans l'esprit du disciple de Jésus-Christ. Alors ici, bien sûr, nous avons affaire à une citation du livre des Proverbes. En donnant, donne à manger, donne à boire, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux interprétations possibles. La première, tu vas accroître la responsabilité de ton ennemi en faisant le bien. Tu vas ainsi augmenter sa responsabilité, sa culpabilité. C'est une interprétation possible. Mais l'autre possible aussi, c'est en agissant de la sorte, tu vas mettre en lui un feu qui peut le dévorer jusqu'à le pousser à la repentance, jusqu'à lui faire désirer ce que tu possèdes et qu'il n'a pas. Les deux interprétations sont possibles. Comme les deux interprétations sont possibles lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 2 et chapitre versets 14 à 16, nous sommes pour les hommes la bonne odeur de Jésus-Christ. Odeur de vie pour les uns, odeur de mort pour les autres. D'après la manière qu'ils auront de se déterminer par rapport à ce parfum. C'est la même chose qu'ici. Dieu veuille que dans notre manière de vivre notre relation avec le prochain, quel qu'il soit, agréable ou pas, favorable ou hostile, d'une hostilité pouvant aller jusqu'aux limites de la haine, puissions-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer celui qui nous considère comme notre ennemi. Jésus l'a fait. Étienne l'a fait. L'apôtre Paul l'a fait. Beaucoup l'ont fait et nous y exhortent. Puissions-nous suivre cette longue lignée de témoins et être nous-mêmes, fils de notre Père Céleste, capables d'aimer, même celui qui n'est pas aimable. Que Dieu nous soit en aide. Amen.